Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Bottas.
No flash, no scoop. C'est 7 bonnes nouvelles.
L'émission qui vous met la patatasse.
Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle.
C'est quand ça fait boum dans mon cœur.
Une bonne nouvelle, ça a réjoui.
Oh, une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle.
Oye oye, les cueilleurs de bonnes nouvelles, bienvenue sur CBN, 7 bonnes nouvelles sur 107, on Radio Mardas, pour la première de l'année, avec donc Virginie, bonjour Virginie,
bonjour
et
à tous.
Philippe.
Alors ce mois-ci, on attaque directement par un message, alors nous n'avons qu'un message
unique. Oui, mais unique, un très bon message.
Mais un très bon message. Voilà. Il nous vient d'Hélène. Alors, bonne nouvelle, les cantines de Saint-Frézal de Ventalon et de Saint-Privat de Valongues sont passées au 100% bio ou local, quand ils le peuvent bien sûr. Par exemple, en ce moment, ils arrivent tout de même à avoir du pain local, des pâtes et des kiwis, parce que c'est la saison. Alors ces cantines, elles proposent 2 repas végétariens par semaine. Le retour des enfants, c'est bien meilleur qu'avant. Le retour des cantiniers, c'est que, en comparaison avec auparavant, eh bien, il n'y a presque plus de reste et donc plus du tout de gaspillage de nourriture. Alors, ces cantines sont en train de demander le label Nature et Progrès, ce qui les rangerait parmi les premières cantines en France à être labellisées à ce titre. Donc, bravo à eux.
Oui, bravo à Saint-Privat et à Saint-Frézal, et c'est un exemple à suivre.
N'est-ce pas ?
Voilà. Alors... Ben, je vous rappelle quand même le numéro, hein, parce que je pense qu'à la fin de l'année, vous avez dû le perdre. Alors, je vous rappelle le numéro du répondeur, 04 66 47 06 92. Et puis, la boîte mail, cbn@radiobartas.net. Et puis, on attend vos messages. Il y a aussi le Facebook de Radio Bartas, où vous pouvez nous laisser des petits mots.
Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Bartas.
Alors, quelle bonne nouvelle tout azimut avons-nous ce mois-ci ? Donc, Virginie, bonne nouvelle tu nous apportes ?
Eh bien, moi, je suis partie me balader, vous allez voir, pas mal autour du monde. Donc, on commence par le Salvador, ce tout petit pays où la révolution, cette fois-ci verte, est en marche. Déterminée à tourner le dos à l'agriculture conventionnelle, au profit du bio, les anciens guerrilleros, aujourd'hui à la tête du Salvador, mettent le paquet. Après avoir éjecté la junte militaire au pouvoir, les anciens guerrilleros nourrissent un très beau rêve pour leur pays, qu'ils deviennent autosuffisants et produisent une alimentation 100% bio. Et comme ils ont bien l'intention de transformer ce rêve en réalité, ils se sont déjà mis au boulot. Depuis 4 ans, le glyphosate et 53 autres produits chimiques sont interdits, notamment tous ceux qui portent la marque de Monsanto. Pour atteindre leur but, les ex-combattants ne misent pas du tout sur les lois, pas que sur les lois, pardon, et les interdictions. Ils font également le pari de la formation, de réapprendre aux paysans à se passer de la chimie, quitte à se réapproprier les méthodes naturelles d'autrefois. Dans leur viseur également, les semences des multinationales, dont il faut aussi se déshabituer au profit des semences paysannes ancestrales. Ce qu'entreprend le Salvador est vraiment courageux, parce qu'évidemment, au début, les productions sont un petit peu plus inférieures que celles avec des produits plus industriels et chimiques. Et évidemment, c'est compliqué de changer ses habitudes. Mais ce pays montre probablement la voie, à nous de nous en inspirer.
Alors, c'est marrant parce qu'on va un peu rester dans le même thème. On va... Moi, j'ai une bonne nouvelle qui est à la fois écologique, mais... C'est aussi la belle histoire de quelqu'un qui a su se remettre en cause. Alors, c'est l'histoire de Jean-Pierre Barre. Il est fondateur et gérant d'Oeliatech, une société installée à Saint-Jacques-de-la-Lande, au sud-Bretagne. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a inventé une méthode de désherbage tout à fait innovante. Il élimine les mauvaises herbes avec de l'eau chaude, plutôt que de les intoxiquer avec des produits chimiques. Il les asperge d'eau bouillante sous forme de fines gouttelettes à 120 degrés et tout ça s'est pulvérisé à basse pression. Alors avec le choc thermique, les cellules responsables de la photosynthèse, un petit peu de science nat, elles sont détruites et la plante, elle cuit jusqu'à la racine comme une vulgaire feuille d'épinard et voilà, dans une cocotte minute et elle finit par mourir. Alors Jean-Pierre Barre, c'est un ancien, en fait au départ il était revendeur de produits phytosanitaires, toujours en Bretagne, et puis au début des années 2000 il a commencé à douter, bon la région était infestée, enfin le littoral infesté d'algues vertes, donc nécessité de restreindre l'usage des pesticides. Alors ben, lui... il réalise un peu effectivement qu'il est dans une impasse. C'est pas bon pour l'environnement, c'est pas durable. Alors, eh ben, il s'est souvenu de la façon dont ses grands-parents utilisaient l'eau de cuisson des patates. Et en fait, tout simplement, ils allaient verser ça dans le jardin sur les plantes à éliminer et la plante, hop, comme on a dit tout à l'heure, elle était raplapla. Donc, voilà.
Tour de magie.
Ça, oui. Alors lui, il se dit, ben, pourquoi pas faire ça avec une machine à un peu plus grande échelle. Alors, il est ingénieur, il essaye de bricoler une machine et tout. Au début, il est tout seul. Et puis, ben voilà, ça fonctionne. Après, ben, il fait une machine dans son atelier tout seul. Il la fait fonctionner, il la vend. Mais il voudrait bien passer en faire un peu plus pour gagner sa vie avec. Mais seulement, tout le monde le prend pour un fou. Hein. Les banques, elles se foutent un peu de lui. Voilà, bref. Ils n'ont pas été trop visionnaires parce qu'en fait, quelques années plus tard, les collectivités ont eu l'obligation de se passer de produits phytosanitaires pour désherber. Donc en fait, Jean-Pierre, il avait visé juste et il avait vu loin. Donc voilà, grâce à ce procédé, en plus, on peut utiliser de l'eau de récupération de pluie ou alors de l'eau de forage. On n'a même pas besoin d'utiliser de l'eau potable, c'est ce qui est encore mieux. Il n'y a pas d'additif, il n'y a rien. Il faut juste un peu d'énergie pour chauffer l'eau. Et en 3-4 passages dans l'année, les herbes, elles ne repoussent pas. Et puis voilà, c'est très bien. Ils sont maintenant... alors la société Oeliatech, elle a grandi. Hein. Maintenant, il y a 30 salariés.
Ah oui, c'est ce que j'ai demandé, si ça fonctionnait vraiment.
Oui, ils ont été suivis au bout d'un moment, parce qu'ils ont commencé par vendre une machine, deux, et puis plusieurs. Ils ont donc une croissance spectaculaire de 2014 à 2017, 30 salariés, je disais, et ils sont aujourd'hui, enfin, Oeliatech est le leader européen du désherbage à l'eau chaude. Alors, bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui désherbent à l'eau chaude, mais voilà. Et puis, ils sont face à... ils vont vendre encore plus de machines parce que... Alors, pour l'instant, c'est surtout utilisé par les municipalités, mais ça peut trouver un usage aussi dans les travaux paysagistes, dans l'entretien des vignes. Et voilà, donc... bel avenir pour eux, je pense. Bravo, bravo à Jean-Pierre, le petit breton.
Eh bien, après la Bretagne, je vais vous parler d'une autre expérience qui se passe, mais cette fois-ci, comme promis, on fait un tour du monde, en Inde. Il s'agit du projet Sadhana Forest, qui se trouve dans le sud-est de l'Inde. Alors, cette forêt, elle est connue parce qu'il s'y passe une expérience environnementale et sociale un petit peu unique au monde. Ça se présente en fait sous forme d'un... C'est comme un sanctuaire au sein duquel on organise un travail de reforestation et de conservation de l'eau. Les deux fondateurs, Avirma Rosin et sa femme, ont compris assez rapidement que c'était l'avenir en fait, leur vert et leur bleu. C'était vraiment les enjeux du 21e siècle de conserver l'eau, la qualité de l'eau et avoir des forêts. Il faut dire que la région d'où ils venaient avait énormément souffert des activités humaines avec de la déforestation, l'agriculture intensive. Petit à petit, tous les grands végétaux avaient disparu. Les sols se sont vraiment appauvris avec de l'érosion très importante et les vastes zones boisées sont finalement devenues des zones de sécheresse complète. Donc ce processus-là a bien sûr engendré des véritables mouvements de population, les gens n'avaient plus d'eau, plus de quoi se nourrir et donc il y a eu un fort dépeuplement de cette région qui était à l'origine, je le rappelle, vraiment luxuriante. Donc, dans les débuts des années 90, ils se sont mobilisés pour tenter de restaurer environ 30 hectares. Alors, ce n'est pas une taille très, très conséquente, mais ça permet déjà d'expérimenter un travail pour restabiliser les sols, repermettre la forestation. Alors, ils ont proposé, dans cet objectif vraiment de reforestation, d'accueillir une expérience un petit peu à partir du bénévolat. Ils proposent à des bénévoles qui vivent sur place, de venir participer à cette expérience. Donc, c'est un des sites qui accueille le plus grand nombre de bénévoles résidents. Donc, les gens, ils peuvent rester de un mois à plusieurs années s'ils le souhaitent. Donc, quotidiennement, ils replantent des arbres, ils les protègent avec des décoctions produites à partir de plantes de la région. Et par le biais de nombreuses techniques de rétention d'eau, on tente petit à petit de restaurer le niveau des nappes phréatiques. C'est aussi un enjeu très important pour les populations locales qui pourraient, celles qui sont encore là, rester et permettre à d'autres de se réinstaller sur place et notamment avec une production aussi agricole en face. Donc, Sadhana Forest, comme je le disais tout à l'heure, des bénévoles résidents. Il y a jusqu'à 1000 personnes qui séjournent là-bas. Donc, c'est devenu une espèce de communauté où se retrouvent des bénévoles des quatre coins du globe. Hein. La seule condition pour pouvoir s'intégrer dans ce projet, c'est de respecter ses valeurs, ainsi que les autres résidents. Alors, outre la plantation de centaines d'arbres, c'est vraiment cette vie de bénévole qui est rythmée par les différentes tâches à accomplir, qui assure le fonctionnement régulier de la communauté. Il faut préparer les repas, s'assurer de l'hygiène du village, nettoyer les toilettes sèches, enfin, tous les menus travaux quotidiens qui font que tout se passe bien pour 1000 personnes vivant sur un même site et éviter l'impact négatif de ces 1000 personnes. Donc, on y découvre toute une autre manière de vivre, à la fois concentrée sur le développement personnel de chacun et le bien-être des autres. C'est vraiment une expérience très intéressante, loin de la promenade touristique. Donc c'est une expérience qu'on peut trouver sur le Mondialisation, le site MR Mondialisation.
Alors, une bonne nouvelle, un peu technique, on va parler un peu d'Internet. On a déjà parlé dans nos bonnes nouvelles de moteurs de recherche et tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si tu te souviens, Virginie Lillo, voilà, qui était un moteur éthique, mais qui utilisait quand même Google en arrière-plan, on va dire. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de Quant. Alors, Quant, c'est aussi un moteur de recherche. Mais par contre, c'est un moteur de recherche qui est donc européen, donc financé par un groupe d'entrepreneurs qui ont mis pas mal d'argent depuis 2013. Et Quant, c'est une société française puisque le siège social est à Paris. Et en fait, c'est la première réelle alternative aux moteurs de recherche américains, dont Google, Bing, etc.
Et
tutti quanti, voilà. Parce que... Eh ben, en fait, il faut beaucoup de moyens et c'est la première fois qu'on a vraiment une entreprise qui réunit assez de moyens pour concurrencer Google. Alors en plus, Quant, ils annoncent quand même des valeurs qui sont basées sur le respect de la liberté de ses utilisateurs et donc ils veillent à préserver l'écosystème numérique et la vie privée, la neutralité.
Voilà. À l'écosystème numérique, je n'avais pas trop entendu cette terminologie, c'est intéressant.
Je vais essayer d'expliquer un peu. Alors, Quant, il s'engage à délivrer les meilleurs résultats possibles à vos recherches, mais sans jamais chercher à savoir qui vous êtes ou ce que vous faites. C'est ce qu'on appelle, je crois, le no-tracking en langage Internet. Donc, il y a pas de no-tracking sur Quant. Ils ne gardent donc rien en mémoire et ils n'exploitent pas du tout les données personnelles. À des fins publicitaires ou autres, c'est-à-dire que par exemple, ils ne retiennent pas l'adresse de votre ordinateur pour vous envoyer des pubs très ciblées 15 jours plus tard et tout ça. Ils s'engagent aussi à une totale impartialité, sans discrimination dans les recherches. Alors, un des objectifs, c'est de rendre l'ensemble du web visible, parce que effectivement, ça demande beaucoup de moyens, parce qu'il faut parcourir tous les sites qui sont sur le web. Donc, pour l'instant, ils ont un peu de mal, c'est avant tout une question de moyens. Donc, ils font appel à un moteur de recherche, américain, Bing, pour les aider, mais ils filtrent les recherches et les principes de base de Quant sont appliqués, donc respect de la vie privée et de la confidentialité. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Quant? Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne, hein? Puisque c'est un moteur de recherche gratuit, et en fait, quand même, la principale source de revenus, ça provient des publicités qui sont affichées sur la page quand on fait une recherche. Par contre, les publicités... elles sont directement en rapport avec ce que vous cherchez et ils s'engagent, comme je disais tout à l'heure, à ne pas vous reproposer des publicités plus tard. Alors, qu'est-ce qui nous garantit ce que nous dit Quant, en fait ? Parce que c'est un peu ça, on peut les croire, ils sont probablement de bonne foi, mais on peut douter quand même. Eh bien, en fait, c'est que c'est une entreprise française et qu'ils sont soumis à la loi informatique et liberté. Donc, s'ils veulent conserver des données, ils sont obligés de le déclarer à la CNIL. Mmh. Voilà, c'est ce qui se refuse. Donc, comme ils ne conservent pas de données, il n'y a pas de fichier à la CNIL. Et donc, si toutefois ils le faisaient, ben, ils seraient
soumis
à des sanctions si on les découvre. Voilà. Ils se sont dotés d'un service dédié à la protection de la vie privée avec un correspondant, Informatique et Liberté, qui siège à la CNIL et qui rend des comptes à la CNIL.
Voilà des belles garanties.
Oui, voilà des belles garanties.
Voilà, nous voilà rassurés maintenant.
Oui, ben, je vous engage à essayer Quant. Il y a des applications pour les mobiles, pour les ordi, c'est simple. Et voilà. Essayons et puis on en reparle.
Oui, j'essaierai. Alors maintenant, nous partons en Islande, qui vient de devenir le premier pays au monde où les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes sont illégales. Alors, il y a une loi sur la parité salariale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 dans ce pays de 330 000 habitants, n'est-ce pas ? Alors, cette nouvelle loi concerne tout d'abord les sociétés privées et les entités gouvernementales, pour peu qu'elles comptent plus de 25 salariés dans leur rang. À terme, le gouvernement compte appliquer cette législation à l'ensemble des salariés du pays et des entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, leur objectif, c'est la fin des inégalités salariales d'ici 2020, donc à court terme maintenant. En attendant, le respect par les employeurs de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, ce respect-là sera attesté par un certificat qui sera délivré par les autorités islandaises. En cas d'écart de rémunération, il y aura des contraventions qui seront, donc des sanctions financières qui seront adressées aux entreprises. Donc c'est vrai que l'Islande, depuis pas mal d'années déjà, est le bon élève de l'égalité homme-femme. Hein. Elle a été soutenue, cette mesure, quelles que soient les partis, hein, par le centre-droite ou pouvoir, ou par les représentants de l'opposition. Donc il y a vraiment une culture aussi hein, sur cette égalité. On peut le voir dans les instances politiques, la parité est complètement respectée depuis de nombreuses années. En 2017, l'Islande s'est classée pour la neuvième fois consécutive en tête du classement mondial établi par le Forum économique mondial concernant l'égalité femmes-hommes. Donc, ils continuent. J'espère que notre gouvernement va envisager... Je sais que c'est dans les études, dans les tuyaux en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai souhaité en parler.
Alors, Virginie, quand même, en ce début d'année, je vais faire une petite bonne nouvelle pour nos amis les riches, les nôtres. Donc voilà, parce que
j'ai longtemps, ça me manquait.
Ouais, j'ai pas pu résister quand même parce que celle-ci, elle est pas mal. Eh bien, les riches, ils sont de plus en plus riches. Voilà. Donc c'est quand même bien pour eux. Alors les chiffres que nous donne une ONG britannique qui s'appelle Oxfam, ils frisent quand même un peu l'indécence. Hein. C'est-à-dire que en 2017, 82% des richesses créées dans le monde ont bénéficié aux 1% les plus riches. Et les 50% les plus pauvres, ça n'a pas évolué. Et donc, bravo à nos riches, ils sont vraiment très forts. Alors, ça, c'est cette ONG-là, Oxfam, elle a fait tout un rapport donc, qui va être dévoilé, qui a été dévoilé, puisque c'était à Davos, là, il y a quelques jours. Oxfam, le constat, il est implacable. La répartition des richesses mondiales, la richesse des milliardaires a augmenté de 762 milliards de dollars en 12 mois. Le nombre de milliardaires, je les cite, hein, a connu l'année dernière sa plus forte hausse de l'histoire avec un nouveau milliardaire tous les deux jours.
Oh, écoute, ça veut
plus,
dire que...
Ouais, bon, ça, j'espère que... Voilà, tous les deux jours, c'est pas mal. Hein. Ce boom incroyable équivaut à 7 fois le montant qui permettrait de mettre fin à la pauvreté extrême dans le monde, toujours d'après l'ONG. Et oui, c'est indécent. Alors, autre donnée frappante, le patrimoine des milliardaires a augmenté en moyenne de 13% par an depuis 2010. Et 4 jours suffisent au PDG de l'une des 5 premières marques mondiales du secteur du textile pour gagner ce qu'une ouvrière de la confection Ben Ladez gagnera au cours de sa vie. Voilà, le cercle
Quelle
bouclé.
Bonne nouvelle voilà. Tu nous as apportée.
Bon, je vais finir quand même par un petit cocorico, puisque en France, nos riches, eh ben, ils sont quand même pas en dehors du truc, hein, puisque la richesse des milliardaires français a été multiplié par 3 en 10 ans. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, ben, bravo à nous. Et puis, voilà, j'ai rien à ajouter, en fait.
Venons d'entendre Metroni The Look. Vous êtes à l'écoute de Radio Barta sur le 107 pour faire le plein de bonnes nouvelles en ce mois de février pluvieux, neigeux, tout ce qu'on veut. Donc ce mois-ci, comme promis, au lancement de la saison, nous sommes sortis à votre rencontre et entre deux averses. Nous avons trouvé plein de chaleur humaine, ambiance rigolade des copains, tous les dimanches matins. On écoute.
Alors, bonjour. Ce matin, bonjour. On est sorti de nos murs et on est venu à la rencontre de Guy, qui, tous les dimanches matins, est sur l'esplanade. Alors Guy, qu'est-ce que tu viens faire sur l'esplanade tous les dimanches matins ?
Me promener parce qu'à Florac, il fait beau. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est bien. C'est fin janvier. On a un petit soleil. C'est pas désagréable. Alors, mais à part te promener, qu'est-ce que tu fais de plus ?
Je viens, qu'on dirait, satisfaire mes clients qui aiment depuis pratiquement 6 mois mes huîtres que je ramène du bassin d'Arcachon tous les vendredis soirs.
Voilà, c'est ça la bonne nouvelle en fait, c'est que maintenant à Florac, tous les dimanches, on peut venir. Alors tu te trouves à côté, sur l'esplanade, à côté du bouchon Sénol.
Tout à côté, voilà. Puisque je suis juste en face. Voilà. En fait.
Et donc on peut déguster des huîtres. Alors elles viennent d'où ces huîtres ?
Du bassin, comme je te le disais tout à l'heure en fait, du bassin d'Arcachon.
Oui, ok. Et comment ça se fait alors que D'Arcachon, on connaît Florac et on vient vendre des huîtres à Florac le dimanche matin.
C'est un peu dans l'autre sens qu'il faut prendre les choses. J'étais auparavant meunier bio chez Jean-Pierre Constant à Chirac.
Ah, donc
je suis d'ici.
Voilà.
J'ai fait une reconversion professionnelle.
Oui.
J'ai passé un an au lycée de la mer avec Jean Mestras, qui est sur le bassin.
Sur le bassin d'Arcachon.
Sur le bassin d'Arcachon, oui. Et ensuite, avec mes diplômes professionnels, je suis en train actuellement d'avoir ce qu'on appelle les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime qui vont me permettre dès à présent d'exercer mon métier d'ostréiculteur. Pour l'instant, je travaille avec des amis, des copains qui sont sur le port de la Teste de Buch, le port ostréicole de la Teste de Buch, sur la digue ouest.
Bon alors Denis, toi, bon tout le monde te connaît à Florac, hein, tu régales tout le monde aux tables de la Fontaine. Et alors t'es un habitué. T'es un habitué du dimanche matin.
Je suis un habitué du dimanche matin, ouais, pour venir déguster les huîtres de Guy.
Ouais. Et alors, ouais, bon, moi j'ai pas goûté encore, j'en ai...
Ah mais tu devrais.
Je vais goûter, mais donc...
C'est un moment.
Comment, par rapport par exemple aux huîtres de l'étang de Taux, de Marais-Oléron
Ah bah c'est des huîtres qui sont déjà un peu plus fines. Enfin, je les trouve un peu plus fines, je dénigre pas les autres
huîtres.
Voilà. Hein. Mais c'est des huîtres qui sont très fines, et surtout en fait... Ça permet, le dimanche matin, de tous se retrouver ici.
C'est vrai qu'il y a pas mal de monde, là.
De déguster,
une quinzaine, voilà, là, grosso modo.
On est en train de déguster des huîtres. On parle de tout et de rien, de toutes les générations confondues. On boit un coup. Guy nous raconte ses histoires d'huîtres et de voyages à travers la France avec ses huîtres. Et je trouve ça formidable.
Ouais. C'est vrai que c'est un moment très convivial et ma foi,
on
vous invite tous à venir, à passer, acheter
qu'il
quelques vente, huîtres.
Qu'il pleuve, qu'il neige.
C'est ça la bonne nouvelle qui démarre l'année.
Exactement.
Alors je suis levé 10 encore.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Alors une douzaine d'huîtres. Oui. Alors là, tu les prends un peu au hasard dans la,
ah non,
dans la bourriche.
Hasard, j'ai passé la nuit de jeudi à vendredi à les sortir de l'eau et à les trier.
D'accord.
Et à les mettre dans des bourriches spécifiques pour le conditionnement.
Ouais, c'est ça. Voilà. Elles ont toutes la même taille, là, je vois ça.
Sensiblement.
Voilà.
Elles sont calibrées une fois à la machine et ensuite, c'est le poids dans ta main et ton œil qui va faire qu'elles vont aller plutôt ici ou plutôt là.
Ah ouais, là c'est l'expérience. Alors.
Là oui, là c'est le professionnel.
Bon, je vais te laisser servir, monsieur. Voilà. Une douzaine alors ? Non, deux douzaines.
Une douzaine, c'était
une,
ça.
Une, ça suffit. Bon, voilà.
Je vous donne un citron, quand il vient d'à côté, de l'épicerie à côté. Et puis il est gratuit. Moi oui.
Tu me dis que ce sont des huîtres naturelles alors. Parce qu'on ne fait pas forcément la différence. Nous, pour eux. Voilà. Explique-nous ça un peu.
On ne fait pas forcément la différence parce que justement, il y a quand même beaucoup de confrères qui ne veulent pas la faire, la différence. Une huître naturelle, c'est une huître qui est née toute seule en mer. Une huître non naturelle, elle a été fabriquée dans une usine. Il y en a 5 en France.
Ouais.
Et elle a été vendue à des ostréiculteurs qui ne font pas correctement leur travail. Ou du moins, qui ne le font pas de A à Z. D'accord.
Mais ils ne vendent pas l'huître en... Ils vendent ce qu'on appelle, ce que tu m'as nommé...
Le naissin.
Mettant le naissin.
Voilà. Le naissin, c'est le bébé huître.
Le naissin.
Le naissin, c'est le bébé huître.
Voilà,
quelque chose qui peut être grand comme un ongle de petit doigt.
Oui. Et ça, donc, on achète le bébé huître et ensuite...
On l'élève au même titre qu'on dirait qu'un éleveur traditionnel.
Oui.
Mais il a d'abord été fabriqué dans une usine.
Voilà. Et toi, donc, t'achètes pas les bébés ailleurs ?
Non, elles naissent sur le bassin d'Arcachon et elles sont naturelles. Et on se bat, ostréiculteurs traditionnels, on se bat pour qu'enfin on ait ce petit label né sur tuile Cholet qui va authentifier le fait qu'elle soit née en mer.
Oui,
on ne demande pas, quand dirais-je, que les gens soient obligatoirement dirigés vers nos huîtres. On veut simplement qu'ils aient
c'est la
le
transparence.
Choix. Voilà,
transparence. Savoir ce que tu achètes, c'est très important. On en parle souvent à CBN et effectivement, c'est...
Tu as le choix, tu sais ce que tu achètes.
Voilà, au moins, là, c'est finalement l'équivalent d'un produit très local, un peu bio, l'huître naturelle.
Bah,
c'est un
bio, peu dans on cette peut pas. Veine-là. Ça peut être naturel, bio, on ne pourrait pas, parce qu'il faudrait qu'on dirait que ça soit hors sol.
Oui, il faudrait que l'eau, etc.
Voilà.
Y ait des critères
on n'a pas d'océan à notre disposition.
Oui.
Mais on a l'océan qui est pour tout le monde. mais naturel, oui, voilà. C'est important. Ouais. Et puis en plus, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'un ostréiculteur traditionnel, c'est quelqu'un qui fait vivre, on va dire, un savoir-faire qu'à 150 ans.
Oui, puisque il y a 150 ans, il n'y avait pas de cuve en inox pour élever des naissins.
Voilà. Ouais. Okay. L'extension de la culture et de l'élevage des huîtres de façon artisanale, qui s'est amplifiée par la suite, ça vient de 1850. Et il y a environ une trentaine d'années, ben, les industriels de l'agroalimentaire ont pensé qu'on pouvait aussi faire du fric avec ça. Et ils ont commencé à créer des énormes machines. L'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est Graines Océan, l'usine qui se trouve en Charente-Maritime, où le patron nous a montré, on s'était glissé avec un groupe d'Irlandais pour visiter l'usine, dans le cadre de mon bac professionnel. Voilà.
Oui.
Et puis ben, le type a simplement mis la main sur une cuve en inox de 100 mètres cubes et il a dit fièrement, dans cette cuve, j'ai 1,5 milliard d'huîtres potentielles.
Qui revend à
des ostréiculteurs qui font pas leur boulot jusqu'au bout.
D'accord.
Même si je...
Ouais.
Elles sont pas si bonnes, non, elles sont meilleures que les huîtres bretonnes, c'est pas pareil.
Bon là, autant vous le dire, il y a un breton dans le coin, donc là...
Et en plus, je connais pas d'huîtres qui naissent en Bretagne, moi, Yann.
Oui, ce sont des fausses huîtres, comme on vient d'en parler.
Voilà. Hein, Yann, elles naissent où en Bretagne, tes huîtres?
Non, pardon, elles naissent
sur le bassin d'Arcachon ou à Marais-en-Oléron, ou alors dans une usine.
Chez toi? Mais en Bretagne, c'est pareil. Enfin, il n'y a pas d'usine en Bretagne. Il peut y avoir des parcs.
La Satmar, c'est pas en Bretagne.
Ah, je ne connais pas.
C'est des usines qui fabriquent du naissin en jouant aux apprentis sorciers, comment dire. Et...
Alors après, moi, je ne sais pas, je mange que de la pleine mer.
Que de la pleine mer. C'est l'huître naturelle dont tu parlais, la pleine mer. On l'appelle aussi comme ça.
On peut dire ça, quand dire.
Et en septembre, je suis allé sur la Vilaine, à l'embouchure de la Vilaine, et là, je les ai mangés directement sur les rochers. Ah. Et ça, c'est les meilleurs.
Alors voilà, si vous voulez l'adresse...
1200 km aller-retour, mais sinon c'est pas cher, arriver sur place.
Si vous voulez l'adresse du rocher, envoyez un petit mail à Radio Bartas, on vous la communiquera.
Voilà.
Donc, des huîtres naturelles, et donc toi tu vas t'installer donc à ton compte là.
Je suis en train de racheter une entreprise, une cabane, ça s'appelle comme ça les entreprises là-bas, et je passe en commission de culture marine là dans le courant du premier trimestre. Et une fois que j'ai mes AOT, je vais pouvoir commencer à produire. Il faut 36 mois pour pouvoir... Avant de vendre une huître, il faut laisser 36 mois, d'accord? Donc je vais commencer à produire de façon à proposer mes propres produits dans 3 ans.
36 mois, oui. Donc effectivement, il y a un petit investissement en temps à faire et évidemment en argent pour qu'au bout d'un moment, on puisse vendre ses propres huîtres. Et donc tu viens à Florac de quelle période à quelle période? Parce que je pense que c'est aussi une particularité des huîtres naturelles, c'est que il n'y en a pas toute l'année.
C'est-à-dire qu'en fait, leur gamétogénèse commence au mois de février et après elles vont se consacrer à leur reproduction et pour ça, un instant. Moi, je disais donc que la gamétogénèse, c'est-à-dire la période où elles se consacrent à leur reproduction, elle commence au mois de février et puis elles vont jusqu'au mois de mai-juin se préparer à pondre, puisqu'elles le font de façon naturelle, on va dire entre le 15 juin et le 15 août. À partir du mois d'avril, il faut leur laisser le temps pour qu'elles puissent se consacrer à leur reproduction.
Oui.
Une fois qu'elles auront frayé, pondu, elles vont avoir perdu 70% de leur énergie. Et donc nous, du mois d'avril au mois de septembre, on les laisse tranquilles se reproduire. Et on recommence à vendre nos huîtres marchandes à partir du premier week-end de l'automne jusqu'au dernier week-end de l'hiver.
Voilà, donc faut venir faire le plein d'huîtres.
Du iode, de fer, de zinc, d'oligo-aimant. Et puis, comme vous pouvez peut-être l'entendre, de gaieté et de sympathie et de convivialité.
Effectivement, c'est un moment très convivial. Il y a pas mal de monde là ce matin, comme je disais tout à l'heure. Et voilà. Donc, peut-être un numéro de téléphone, si on veut, il faut commander les huîtres un peu avant, il faut...
Avant de commencer par les commander, non mais avant de commencer à les commander par téléphone, passez nous voir,
oui,
venez les déguster,
voilà,
et après vous aurez ma petite carte de visite, vous pourrez m'appeler, m'envoyer un petit SMS, je les préparerai dans la nuit du jeudi au vendredi, et vous attendront le dimanche matin.
Voilà, parce que tu les sors de l'eau...
Dans la nuit du jeudi au vendredi, oui.
D'accord.
On les emballe, comme je te disais tout à l'heure, en fait c'est tout un art.
Très frais,
plus frais, c'est difficile.
Oui.
Ou alors tu viens les manger à la cabane.
Oui, voilà. À l'occasion.
Pourquoi pas.
Du côté d'Arcachon.
Port ostréicole de la Teste de Buch, Digue Ouest.
Voilà, c'est fait. L'adresse est donnée. Et donc, on vous invite tous le dimanche matin à venir d'abord déguster, ensuite acheter si vous voulez pour continuer la dégustation chez vous. Merci Guy.
Je t'en prie.
Et à bientôt.
Bon Yann, est-ce qu'elles sont bonnes ces huîtres alors?
Ouais,
ça Joanne, t'es en train d'en ouvrir une, fais attention, ouais. T'as l'air d'être bien à l'aise avec l'ouverture des huîtres.
Là, ça va, mais en plus ça c'est le vrai couteau décaillé. Oui, ça, enfin, je te le montre au micro.
C'est un petit couteau. Tout le monde sait ce que c'est qu'un.
Ouais. Mais il y en a qui ont des gardes avec des plus larges. Ça, c'est le vrai, ça.
Ça, c'est le vrai, d'accord. Il faut faire quand même attention.
J'en ai une qui
résiste. Prendre quelques précautions. Ouais.
Ah, ça y est, c'est bon.
Alors,
bah, écoute, elle a
comment
l'air...
est-elle? C'est normal qu'elle résiste.
Elle fait de l'eau.
Ça, c'est bon signe. Alors, Yann la pique pour voir si elle réagit.
Elle est vivante, a priori,
voilà.
Vivante.
Ouais, donc, oui. Il l'a piqué, elle a un peu réagi.
Donc des huîtres élevées en plein air.
En pleine mer. Et en plein air aussi.
Et en plein air aussi. Ouais. Et contrairement à des huîtres élevées en bassin.
Oui, Guy nous a expliqué l'élevage traditionnel.
Ouais. Après, il y a des huîtres en bassin qui sont bonnes aussi. Mais c'est vrai que du coup, celles-ci, elles sont vachement plus iodées. C'est marrant d'en parler avec... Avec Steph Espinasse l'autre jour.
Oui.
Et vraiment, il y a des terroirs. Enfin, moi, j'aime bien aussi les huîtres.
Comme pour le vin, il y a des terroirs pour les huîtres.
Parce que les huîtres de Méditerranée ou des Tantos, moi, j'en mange, je les aime bien aussi.
Ouais, d'accord.
Mais elles n'ont rien à voir avec celles-ci. Ouais.
Chacune a son propre goût.
Ouais,
en fait.
Carrément. Et celles-ci n'ont rien à voir avec celles de Bretagne.
On va la déguster. Allez.
Ouais, ouais.
Et voilà, déjà, notre dernière rubrique.
Eh oui. Ça passe si vite.
Quand nous sommes ensemble. Alors, il s'agit bien sûr de CBN, il n'y a pas mal à se faire du bien. Ce mois-ci, mon conseil de lecture, c'est « Avant toi » de Jojo Moyes. Alors, l'histoire, rapidement, c'est celle d'une jeune fille ordinaire, Lou, qui mène une vie plutôt monotone, dans un trou paumé du fin fond de l'Angleterre. Elle n'est jamais d'ailleurs sortie de son bled. Quand elle se retrouve au chômage, elle accepte un contrat de 6 mois pour tenir compagnie à une personne handicapée. Voilà, à vous de lire la suite. Le film, il s'agit...
Ah oui, le film quand même.
Oui, pour, le film,
non, voilà,
faut pas faire
indispensable tôt. Quand même.
Surtout vu le temps qu'il fait.
Oui, ben voilà.
Alors,
allez, un bon film alors.
Un bon film, très sympa. Il s'agit des Mauvaises Herbes, qui a été réalisé en 2017 par Louis Bélanger. Son histoire, c'est celle de Jacques, qui est un comédien de théâtre qui, un petit peu raté, a accumulé de lourdes dettes auprès de mafieux de Montréal. Poursuivi par ce dernier, il fuit précipitamment les lieux de son travail et se retrouve en plein hiver sur les terres de Simon, un ermite, un tantinet illégal qui cultive tout simplement du cannabis dans sa grange. Donc c'est un film vraiment très sympa que vous trouverez dans tous les bons vidéoclubs du secteur.
À la fin du dernier Batman, on se rend compte que le méchant n'était pas celui qu'on pensait, que c'était Marion Cotillard. Un peu comme dans le dernier quart d'heure du 6e sens, on apprend que Bruce Willis est un fantôme, qu'il est mort depuis le départ. Pour tout vous dire, Dumbledore meurt à la fin du 6e volet, un peu comme Tony Soprano à la fin de la 6e saison. Dans Breaking Bad, le père de Malcolm finit par se faire tuer. C'est pas le seul chauve qui finit mal, faudrait que tu vois Armageddon. Laisse-moi te gâcher la fin de ton film, laisse-moi te dire qui est le méchant. Cette fois, tu parleras pas pendant. Si Rosebud est le dernier mot que prononce Charles Kane, c'est que c'était le nom de la luche qu'il avait quand il était jeune. Et puis à la fin de Fight Club, et ben le type est schizophrène. Et surpris, c'est Kevin Spacey qui joue le tueur dans Seven. Un an après avoir été le grand méchant Kaiser Soze, c'est à croire qu'il y en a qui un faciès qui prédestine. Dans Saul, le méchant, c'est le type au milieu qui est allongé. Dark Vador, c'est le père de Luke, et Princesse Leia, sa frangine. Laisse-moi te gâcher la fin de ton film, laisse-moi te dire qui est le méchant. Laisse-moi te gâcher la fin de ton film, la prochaine fois tu le téléchargeras légalement.
Alors, merci d'avoir écouté les trois fromages. Et le titre, c'était, ben, vous l'avez compris, à la fin. Voilà. Donc, Seven Bonnes Nouvelles sur Radio Partas, c'est sur le 107. Et vous pouvez réécouter ben, forcément tous les jours. Hein. En se levant le matin, c'est bien. Il suffit d'aller télécharger légalement sur radiobartas.net. Et puis, elle sera rediffusée donc, le samedi 24 février à 17h. Et puis, on vous donne rendez-vous le 6 mars à 8h pour une nouvelle dose de bonnes nouvelles. Évidemment, répondeur. Je rappelle le numéro, Virginie.
Oh, bah allez,
oui,
ça
allez,
mal.
Allez, on le rappelle. Allez, voilà. 04 66 47 06 92. Et alors, le mail, cbn@radiobartas.net. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci à Elliot. Et puis, Virginie, Elliot, à bientôt.
À bientôt, tous.
It was CBN on Radio Bartas. Thanks for listening.